VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, une vingtaine de militaires ont été tués hier dans une des plus graves attaques contre l'armée.
Ebola en RDC, un deuxième décès a été annoncé dans le sud Kivu et une nouvelle zone touchée dans le nord Kivu.
À New York, un policier accusé d'avoir asphyxié un noir en 2014 a été limogé hier.
Washington regrette que Gibraltar ait laissé repartir le pétrolier iranien qui se dirigerait maintenant vers un port grec.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, une vingtaine de militaires ont été tués hier dans le nord du pays. Des détails avec Bagassi Koura.
L'attaque a eu lieu tôt lundi matin. Des hommes armés non identifiés à moto et en véhicule ont pris d'assaut le détachement militaire de Koutougou, situé à environ 70 km de Djibo dans la province du Soum. Des sources sécuritaires jointes par VOA Afrique parlent d'au moins 24 morts, une dizaine de disparus. Selon nos sources, 12 à 17 soldats manquent à l'appel. On compte aussi de nombreux blessés. Des armes du détachement ont été emportées par les assaillants selon nos sources. Dans des communiqués successifs, l'état-major et le gouvernement burkinabé ont chacun évoqué plus d'une dizaine de militaires tués dans cette attaque, je cite, d'envergure. Jusque-là, la plus grosse attaque djihadiste jamais perpétrée contre l'armée burkinabé avait fait 12 morts à Nassoumbou, également dans la province du Soum. C'était en décembre 2016. La semaine dernière, 3 policiers ont été tués dans une embuscade sur l'axe Djibo-Mentao, dans la même région.
En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont indiqué hier avoir enregistré un nouveau décès lié à la fièvre hémorragique Ebola dans la province du Sud Kivu, la troisième à être touchée par l'épidémie dans l'est du pays. Il s'agit d'un enfant de 7 ans, mort dimanche dans le territoire de Mwenga. Selon le docteur Claude Baïzéré, responsable de la communication à la direction provinciale de la santé du Sud Kivu. 2 autres cas suspects, 2 femmes, ont été détectés et elles sont admises au centre de transit de Bukavu, capitale du Sud Kivu, a-t-il ajouté.
D'après le docteur Baïziré, les 2 patientes étaient en contact avec la femme qui est décédée la semaine passée lors de son passage à Bukavu pour Mwenga. Le ministère de la Santé a par ailleurs annoncé qu'une nouvelle zone de santé a été affectée au nord Kivu. Un cas confirmé d'Ebola a été enregistré à Pinga, dans le territoire de Walikale, dans le centre de la province du nord Kivu, a-t-il indiqué sans autre détail.
De l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo à faire preuve de solidarité dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà tué plus de 1930 personnes. Le point avec Eddie Isango.
Le moment est venu pour que tous les partenaires, notamment les 9 pays voisins de la RDC, fassent preuve de solidarité pour barrer la route à la propagation d'Ebola, a déclaré hier le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Ebola est une maladie évitable et traitable. Nous avons un vaccin qui est à plus de 97% efficace et les médicaments qui les sont à plus de 90%, a affirmé le directeur général de l'OMS. Ebola est une urgence de santé qui est complexe. En RDC, où les agents de santé font parfois face à l'insécurité dans les zones touchées, puis au manque de confiance de certaines communautés, a-t-il souligné. Le docteur Ghebreyesus prenait part à la 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui sera marquée par l'élection du nouveau directeur de l'OMS Afrique, qui a son siège à Brazzaville. Au moins 400 participants, dont 47 ministres de la Santé du continent, prennent part à cette session dont les assises ont été inaugurées par le président Denis Sassou Nguesso. En juillet, les comités d'urgence de l'OMS avaient élevé la 10e épidémie d'Ebola en RDC au rang d'urgence des santé publique des portées internationales. Cette épidémie a déjà tué plus de 1934 personnes en RDC où elle sévit dans la partie orientale, frontalière de l'Ouganda, du Rwanda ou encore du Burundi.
Le président Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC il y a 10 mois, est fermement aux commandes et retrouve son aisance oratoire suite au discours qu'il a prononcé vendredi dernier et aux cérémonies qu'il a dirigées à l'occasion de la fête de l'indépendance du Gabon. Ces assurances ont été données lundi par le porte-parole de la présidence, Ike Nguoni, lors d'une conférence de presse à Libreville. Une partie de l'opposition affirme que M. Bongo, âgé de 60 ans, n'est plus en capacité de diriger le pays depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre 2018. Et ce, en dépit de son retour à Libreville fin mars, après plusieurs mois de convalescence à l'étranger.
Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir, au pouvoir pendant 3 décennies, a reconnu avoir perçu 90 millions de dollars en espèces de l'Arabie saoudite. C'est ce qu'a rapporté hier lundi à Khartoum un enquêteur à l'ouverture du procès pour corruption du président déchu. L'ouverture de ce procès, initialement prévu samedi, intervient alors que le processus de transition vers un pouvoir civil attend toujours son premier acte concret avec la désignation des membres du Conseil souverain, reporté à ce mardi.
Au Zimbabwe, l'armée et la police ont occupé hier les rues de Bulawayo, la deuxième ville du pays, pour faire respecter l'interdiction de manifester quelques jours après la répression brutale d'une marche identique à Harare. Le point avec Michel Joseph.
Des soldats et policiers armés ont patrouillé à cheval ou en véhicule toute la journée dans le centre de Bulawayo. Avec leur mégaphone, ils ont appelé la population à ne pas se joindre à d'éventuels rassemblements. Des barrages policiers ont eu lieu sur les principales routes menant au centre de la ville. Les autorités ont interdit la marche contre l'hyperinflation, les pénuries et le chômage, à laquelle avait appelé le mouvement pour le changement démocratique. La semaine dernière, les autorités avaient interdit à Harare des manifestations de l'opposition contre la détérioration de la situation économique. Des dizaines de manifestants ayant bravé l'interdiction ont été violemment dispersés à coups de matraques, de fouets et de grenades lacrymogènes. Le Zimbabwe est confronté à des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain, l'huile, les carburants, et les habitants sont souvent soumis à de très longues coupures d'électricité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un policier blanc impliqué dans la mort d'un homme noir à New York a été limogé hier, 5 ans après. L'affaire avait catalysé en 2014 le mouvement Black Lives Matter, dénonçant les violences policières contre les Noirs, Jacques Aristide.
C'est le chef de la police new-yorkaise lui-même qui a fait état du renvoi de Daniel Pantaleo, accusé d'avoir asphyxié Eric Garner, qui était non armé. L'homme de 43 ans, père de 6 enfants, résistait toutefois aux injonctions de la police. Décision extrêmement difficile, affirme le chef James O'Neill, qui ajoute avoir finalement suivi la recommandation d'une juge administrative qui avait appelé au licenciement du policier à la fin d'un procès disciplinaire en juin dernier. L'histoire qui a déchaîné les passions et provoqué de nombreuses manifestations remonte au 17 juillet 2014. Eric Garner est violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnent de vendre illégalement des cigarettes dans un quartier de Staten Island. Asthmatique, il perd connaissance alors que 5 hommes s'emploient à le menotter avant de décéder. Les images ont fait le tour du monde. On y entend Eric Garner répéter à maintes reprises « Je ne peux pas respirer ». Le policier Daniel Pantaleo avait ensuite gardé son emploi, mais était cantonné à des tâches administratives. Il avait été récemment suspendu dans l'attente de la décision de James O'Neill.
Les États-Unis ont qualifié lundi de très regrettable le refus par le territoire britannique de Gibraltar de saisir le pétrolier iranien Adrian Darya et ont souhaité qu'il soit à nouveau arraisonné. Une telle éventualité aurait de graves conséquences, a averti Téhéran. D'après le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic, le pétrolier près de Gibraltar a levé l'ancre dimanche. Le navire doit rejoindre le port grec de Kalamata, selon le site. Un flou total persiste sur sa destination finale et sur le sort de sa cargaison.
Le président Donald Trump a indiqué hier s'être entretenu par téléphone avec les premiers ministres indiens Narendra Modi et pakistanais Imran Khan, qu'il a encouragé à réduire les tensions au Cachemire. Il a écrit sur Twitter avoir évoqué avec ses deux bons amis « L'urgence pour leurs deux pays devrait à réduire les tensions au Cachemire ». Les tensions demeurent vives dans ce territoire depuis que l'Inde a révoqué le 5 août l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Jirama, la compagnie électrique nationale malgache, veut construire une ligne électrique de 220 kW sur 268 km pour relier les provinces d'Antananarivo et de Touamassima, selon l'agence Ecofine. Toutes les localités traversées seront également électrifiées. Madagascar se rapprochera ainsi de son objectif d'atteindre un taux d'électrification de 70% d'ici à 2030. Il est actuellement de 15% au plan national. La société publique chinoise du pétrole conclut une amodiation dans deux importants blocs en Guinée-Bissau. Elle a acquis 55,55% des parts dans les permis Sinapa et Esperança. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de cette année. Selon les termes de l'accord, CNOOC devra financer à hauteur de ses parts toutes les activités de développement précédentes et futures. Toutefois, sa participation sera réduite à 50% dans chacune des licences dans l'éventualité d'une nouvelle découverte commerciale. Pour finir cette minute éco, d'ici 2022, l'Angola veut privatiser 195 entreprises opérant dans les secteurs pétroliers, miniers, financiers, des TIC, des télécommunications, de l'industrie, de l'agriculture, des transports et du tourisme, révèle la Tribune Afrique. Parmi ces sociétés, 32 sont classées en tant que sociétés de référence nationale. C'est le cas de la Société pétrolière nationale Sonangol, du producteur national de diamants Ndiama et de la compagnie aérienne nationale TAG.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Belgique, dixième pays intéressé par l'organisation du Mondial féminin 2023.
Oui, fin juin, la FIFA a annoncé que face au succès retentissant du Mondial 2019 en France et pour favoriser la croissance du football féminin, son conseil a décidé de faire passer le format du Mondial 2023 de 24 à 32 équipes. Neuf pays s'étaient déclarés intéressés par l'organisation de la compétition avant ce changement de format. L'Australie, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Japon, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Hier, la FIFA a annoncé que la fédération belge a fait part de son intérêt. Les 10 fédérations ont jusqu'au 2 septembre pour confirmer leur intérêt et jusqu'au 13 décembre pour déposer leur dossier de candidature. Le pays hôte du Mondial 2023 sera désigné en mai prochain.
Manchester United n'a pas confirmé en Première Ligue.
Vainqueur 4-0 contre Chelsea lors de la première journée, les Red Devils ont été tenus en échec par Wolverhampton 1-1, après notamment un pénalty manqué du Français d'origine guinéenne Paul Pogba en clôture de la deuxième journée de Première Ligue. S'ils ont dominé la première période montrant de belles choses, ils ont beaucoup plus peiné dans le second acte. Reste que ce match nul chez un Wolverhampton qui veut bousculer le Big Six établi demeure un résultat correct pour un Manchester United en pleine reconstruction.
Des nouvelles de transfert de joueurs.
Le gardien de but international sénégalais Alfred Gomis, finaliste de la CAN et qui évoluait à la Spal 2013 en Italie, s'est engagé pour 4 ans avec Dijon en France. Alfred Gomis, 25 ans, a rejoint l'Italie en 2010 pour être formé au Torino, qu'il a ensuite prêté à plusieurs reprises Crotone, Avellino, Cassena, Bologne, Salernitana. En demi-finale de la récente CAN contre la Tunisie, Gomis a été élu homme du match. De son côté, le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone contre 8,5 millions d'euros. Cet accord prévoit une option d'achat pour le Bayern fixée à 120 millions d'euros, plus 40 millions d'euros de bonus.
Ousmane Dembélé, indisponible 5 semaines.
L'international français du FC Barcelone souffre d'une blessure à la cuisse gauche et sera absent 5 semaines. Ousmane Dembélé avait déjà souffert du même type de blessure en mai dernier. Cette blessure n'arrange pas les affaires du Barça qui doit déjà faire face à plusieurs absents de taille. Son avant-centre Luis Suarez souffre d'une blessure musculaire au mollet gauche et devrait être absent 1 mois. Le club catalan doit aussi pour le moment se passer de son attaquant vedette Lionel Messi, blessé au mollet depuis son premier entraînement de reprise le 5 août et ménagé depuis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un deuxième cas de décès dû à la fièvre hémorragique Ebola a été enregistré hier à Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Il s'agit en fait de la troisième personne à être touchée par l'épidémie dans cette province. Eddy Isango a joint à Bukavu le ministre provincial de la Santé, Cosmos Kusimwa Bishisha.
Nous, nous venons de Mwenga, dans l'aire de santé de Choa, parce que son excellence, monsieur le gouverneur, voulait avoir la situation, pas en termes de rapport sur papier, mais il voulait lui-même palper des doigts de la situation. Il est vrai qu'à ce jour, à Choa, nous avons 3 cas confirmés à ce jour, dont 2 décès et 1 qui est sous cure. Donc la prise en charge est en cours. Nous sommes allés réconforter nos équipes techniques qui sont sur place. Nous sommes allés faire la mobilisation de la population pour que tous soient impliqués dans la riposte.
Le week-end dernier, on parlait d'une dame qui aurait quitté Butembo, dont la fille avait été dépistée. La femme était décédée, évidemment. Qu'en est-il du troisième?
Oui, le troisième, en fait, la dame qui était malade était venue de Butembo et s'est retrouvée à Mwenga. Et à Mwenga, elle a habité dans une famille, la famille d'accueil. Et que dans cette famille, elle partageait les lits avec une autre dame de 17 ans qui est décédée. Donc, son cas a été confirmé et décédé.
Puisque la première dame, dont la fille est encore malade, a voyagé de Butembo jusqu'à Mwenga, qui est à 170 km au sud de Bukavu, n'y a-t-il pas risque qu'on ait d'autres cas de contamination?
Je pense qu'on aura moins de cas de contamination parce que la dame, c'est vrai qu'elle a quitté Beni en passant par Goma Bukavu, mais d'abord, la première précision, elle n'a pas passé la nuit à Goma, elle n'a pas non plus passé la nuit à Bukavu, elle est passée en direct. Et pendant son voyage, je crois qu'elle n'avait pas encore développé la maladie, ce qui veut dire qu'effectivement elle était encore moins contagieuse. Mais toutefois, toutes les mesures sont prises parce que tous les contacts de son parcours ont été identifiés et ils ont été vaccinés. Même aujourd'hui à Mwenga, à Choa, dans le centre de santé où elle est partie pour se faire soigner, tout le personnel soignant de cet hôpital, de ce centre de santé et tous les malades qui y étaient ont été mis sous vaccin et ils sont sous contrôle aujourd'hui.
Quelles sont les mesures prises maintenant pour éviter la propagation de la maladie au niveau de la province?
Dans la ville de Bukavu, nous n'avons pas encore le cas de malade. On a vacciné le personnel soignant de la ville de Bukavu et des territoires de Mwenga. On a mis une attention particulière sur tous les points d'entrée de la ville de Bukavu, mais aussi le point d'entrée de la ville de Bukavu vers Choa, considéré comme épicentre de l'épidémie pour le sud Kivu. En fait, on y a mis toutes les mesures pour contenir la maladie dans l'aire de santé Choa.
C'était le ministre provincial de la Santé, Cosmos Kusimwa Bishisha, ministre provincial de la Santé du Sud Kivu.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, la nomination d'un nouveau chef traditionnel de Darouadaï, une communauté vivant dans l'est du pays, divise la population. Pour la famille de l'ancien sultan déchu et la société civile, cette nomination est politique et ne respecte pas les normes de la chefferie traditionnelle. De Ndiamena, notre correspondant André Kodmadjingar.
Le limogeage de l'ancien sultan Ourada du Darouadaï est une conséquence de mauvaise gestion des violences meurtrières enregistrées ces derniers temps dans cette province, estiment les autorités de N'Djamena. Mais le nouveau sultan nommé par le chef de l'État est contesté par la population. Pour les organisations de la société civile, la dynastie du Ouadaï est une propriété du Tchad qu'il faut protéger. Maître Midaï Guérimbaï est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Si on parle du royaume du Ouadaï, c'est un bien national. S'il y a des conflits entre des gens qui appartiennent à cette dynastie-là, que cela soit réglé en application des règles démocratiques, en faisant comme si tout doit être réglé par la force, on arriverait un jour à un certain nombre de révoltes et l'État n'aurait pas les moyens de régler ces choses de manière pacifique. C'est pour ça que nous avons invité les pouvoirs politiques, toute la société tchadienne, de regarder cette affaire autrement, en mettant en avant l'intérêt national.
Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mohamed Nouri Bedou, estime que la chefferie traditionnelle est devenue un outil de gouvernance pour le pouvoir en place, puisqu'il y a toujours intention de diviser les communautés.
Selon les textes, c'est-à-dire l'ordonnance 04 et la loi 013, dit que en cas de démission, de révocation, de décès d'un chef traditionnel, c'est la famille royale se réunit pour désigner quelqu'un sur procès verbal. Et l'administration est obligée d'entériner ça par un acte administratif. Pour ce cas présent, ça n'a pas été respecté. Et c'est grave, parce que ça peut créer une fracture sociale. Il y a une volonté de l'administration, en haut lieu, de vouloir absolument diviser la famille.
Le président Déby, en déplacement le week-end dernier dans les provinces du Sila et du Wadaï, deux provinces en proie à la violence intercommunautaire, a instauré l'état d'urgence pour une durée de 3 mois renouvelable. Il a ordonné aussi la saisie systématique de toutes les motos dans la zone pour une période de 3 mois. Pour Maître Midaï Kirimbaï, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, en prenant cette décision, le président semble avoir outrepassé ses prérogatives.
En droit, on dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Maintenant, l'État permet aux gens d'acheter des motos, les gens payent l'impôt, et le lendemain, on dit non, on saisit ces motos-là. Mais c'est une escroquerie d'État. Si le Tchad estime que les motos sont assimilées aux fusils de guerre, c'est valable pour toute l'étendue du territoire. Il y a des mesures qu'on peut prendre pour des raisons de sécurité, mais le droit de la propriété, il faut que cela soit respecté.
Le chef de l'État a instruit le ministre de la Défense et celui de l'administration du territoire de mettre de l'ordre en renforçant l'effectif des militaires dans les deux provinces et de fermer la frontière entre le Dar-Sila et le Soudan. Les belligérants me trouveraient sur leur chemin, a-t-il averti. André Kodnoumadjingar Ndjamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Fraude des hydrocarbures au Niger, près de 11 milliards de francs CFA de manque à gagner pour le trésor public. C'est ce que révèle la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le point avec notre correspondant Niamey Abdulrazak Idrissa.
Les fraudes sont essentiellement dues à la pratique dite du reversement des hydrocarbures.
Il y avait des esprits malins qui avaient trouvé de quoi s'enrichir dans cette opération. Donc ils se sont investis en exportateurs fictifs de produits pétroliers.
Amadou Issaka, conseiller à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Schématiquement, il déclarait à la douane à Soraz, il prenait des hydrocarbures, de gasoil ou de l'essence qu'il disait amener au Burkina, au Mali ou bien au Nigeria et reverser une grande partie effectivement sur le territoire national. Un, il bénéficiait d'un tarif préférentiel. Parce que c'est pas le même prix. Et puis, ils payaient pas. Il y avait des taxes intérieures telles que la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les taxes de consommation, la TVA, qui payaient pas. Parce que c'est censé partir. On avait suivi, effectivement, le cheminement de ces hydrocarbures. On est parti au niveau de la douane de Kanchari. Parce que le seul passage pour ces hydrocarbures, pour aller au Mali et pour aller au Burkina, c'est le bureau des douanes de Kanchari. Inévitable. On a été à Ouaga. On a vu la direction générale des douanes du Burkina, avec l'appui de l'ASCE, qui nous ont donné le relevé exhaustif des citernes qu'ils ont reçues, avec les numéros des citernes qu'ils ont reçues au Burkina. Et en faisant cet exercice, on avait diagnostiqué que plusieurs citernes n'étaient pas arrivées. C'était l'ordre de 5 milliards et puis plus quelques infractions qu'il y avait aussi. On avait vu aussi au Mali, on a fait la même chose avec le CLEI.
Ces pertes cumulées à celles occasionnées par les fausses déclarations et la réutilisation des numéros de déclaration sont estimées à près de 11 milliards de francs CFA. La Halcia ne s'est pas limitée aux seules infractions douanières. Gousmane Abdraman est son président.
La Halcia est actuellement présente dans une vaste opération de contrôle portant sur la régularité fiscale des entreprises. Sur un total de 18 sociétés ou entreprises ayant fait l'objet de ce contrôle, il a été découvert que plusieurs opérateurs restent redevables des sommes importantes. Sur ce point, il a été mis en évidence près de 4 milliards de droits non versés à l'administration des impôts.
Les dossiers ainsi ficelés par la Halcia sont transmis au parquet général pour suite à donner. Et c'est là que beaucoup de citoyens ont des appréhensions au vu parfois de la position de certaines personnes impliquées dans les dossiers. Du côté de la société civile active dans le secteur, l'on reste cependant confiant. Maman Wada, président de la section nigérienne de Transparency International.
Je pense quand même que cette fois-ci, la justice est suffisamment dotée. Vous avez des pôles judiciaires qui sont là, qui sont formés, qui sont spécialisés sur ce genre de questions et qui vont accompagner certainement le travail de la ADCA. Et cette fois-ci, avec les pôles judiciaires, je pense que la question ne sera pas compliquée.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Guinée, le nouveau code de l'environnement adopté il y a quelques semaines prévoit des sanctions pénales à l'encontre des auteurs de nuisances sonores, dont des peines allant jusqu'à 1 an de prison. Mais dans les quartiers de Conakry, la capitale, ces nouvelles mesures peinent à stopper les pollutions sonores, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Nous sommes à Imbaya, dans la banlieue de Conakry. Il est 20h et les sons des baffles de Mohamed sont entendus à plusieurs centaines de mètres d'une route secondaire barrée pour la circonstance par les organisateurs. Pour le propriétaire des appareils de sonorisation, rien de grave.
C'est un cas social. Je sais bien que les voisins ne vont pas se plaindre. En fait, c'est de notre habitude, quoi. Franchement, je le sais que ce que ça dérange, il faut qu'ils gèrent. Et je sais bien que les voisins ne sont pas fâchés.
Mohamed ignore tout du nouveau code de l'environnement qui prévoit des sanctions pénales. Il ne sait pas qu'il pourrait être puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens, soit près de 550 à 5 500 dollars. Après avoir appris la nouvelle, Ousmane, son collègue, réagit.
J'ai 6 haut-parleurs, donc même si j'ai 6 événements par jour, je peux gérer les 6 événements. J'ai des petits et j'ai des amis. Et c'est dans ça, moi, je gagne ma vie. Parce qu'il faut que nous, on arrête ça. Et c'est comme si on est encore toujours en chômage. Il y a d'autres qui peuvent nous prendre, ils n'ont pas de lieu de loisir. Et ils sont obligés de barricader la route juste pour 2 ou 3 heures de cérémonie. Et moi, je ne peux pas les dire que ici, c'est la route.
Des propriétaires d'appareils de sonorisation, il y en a dans tous les quartiers de la capitale. Des jeunes qui sont loin de chômer. Tant les cérémonies d'anniversaire ou de mariage ou encore de simples rencontres sportives entre amis sont nombreuses. Aboubakar Camara, chef de quartier de Kenya.
Vous savez, quand il y a beaucoup de mariages, c'est à tout moment qu'on dort difficilement. Parce que tout le temps, les jeunes organisent, alors ça embête beaucoup. Il y en a même qui sont venus se plaindre sur moi pour dire que sa maman est malade et les autres sont venus derrière leur bâtiment faire beaucoup de sonorités là-bas. Et il est venu se plaindre sur moi que vraiment de nous aider pour que cela cesse.
Dans ce quartier, les plaintes sont verbales. Aucun auteur de nuisances sonores ne s'est jusque-là retrouvé devant un juge malgré les plaintes répétées des habitants.
C'était le jour d'un baptême d'un voisin. Il n'a pas diminué le volume. Et à l'heure de la prière, on est venu lui dire, mais monsieur, nous sommes désolés, il faut diminuer la musique. Et à l'heure de la prière, il ne l'a pas fait. Donc il a fallu qu'il y ait une altercation très chaude et qu'il y ait l'intervention du voisin pour que le monsieur éteigne sa musique. Donc c'est vraiment quelque chose que l'État doit essayer de gérer parce qu'on ne doit pas mettre de la musique n'importe où.
En cas de récidive, une peine de 3 mois à 1 an d'emprisonnement pourra être prononcée et les appareils ou tout autre objet ayant servi à commettre l'infraction seront saisis au profit de l'État. Mais le nombre important de nuisances sonores est une preuve que l'article 202 du nouveau Code de l'environnement a bien besoin de son application. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou. Politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.